Vous écoutez France Culture, il est 18h. Et le journal de la rédaction vous est donc présenté par Mathieu Laurent. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Julie et bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, un nouveau drame de l'exil au large des côtes tunisiennes, précision de Maureen Mercier. Au Mali, le bras de fer entre le pouvoir et l'opposition à 2 mois de la présidentielle. Christelle Pire est à Bamako. Près de 4 millions d'enfants déscolarisés en Afghanistan. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme. Sonia Ghezali nous appellera de Kaboul. Et puis nous serons en ligne de Bagdad avec Edith Bouvier. Notre consoeur a suivi le procès de Mélina Bouguedi, ressortissante française condamnée ce matin à 20 ans de prison pour appartenance à l'organisation État islamique. Edith Bouvier a publié chez Plomb, Parfum du djihad, un ouvrage riche de témoignages de jeunes femmes qui ont rejoint une organisation terroriste. Le ministère de l'Intérieur tunisien a reçu hier soir un appel à l'aide à propos d'un bateau de pêche en grande difficulté au large de Sfax. Les secours ont pu sauver des eaux 68 personnes et ont repêché 35 corps. Les tentatives de gagner les côtes italiennes étaient moins nombreuses depuis le mois d'octobre, mais elles ont repris. Et ce ne sont pas les récentes mesures prises en collaboration avec un puissant trafiquant libyen qui changent fondamentalement la donne. Les plateformes de départ ont juste changé, comme vous avez pu le constater. Maureen Mercier, vous qui êtes tout juste de retour d'un reportage en Libye.
L'alarme a été donnée cette nuit. Le bateau de pêche sur lequel étaient entassés 180 migrants, selon les estimations tunisiennes, était sur le point de couler. Il a été repéré au large de Sfax, deuxième ville du pays, située à 200 km à peine des côtes libyennes. Depuis 2h du matin, les gardes-côtes et la marine tunisienne s'activent pour tenter de sauver des vies, appuyées par un avion militaire. Parmi les rescapés, des ressortissants de Côte d'Ivoire, du Mali, du Maroc ou du Cameroun. Mais des Tunisiens aussi, qui, faute d'avenir dans leur pays, tentent de plus en plus la traversée vers l'Italie. La Tunisie, non seulement point de départ de la migration, mais surtout sur la trajectoire de l'axe principal, l'axe Libye-Italie. Depuis que l'Italie a signé un accord avec le plus gros trafiquant de migrants de la ville côtière libyenne de Sabratha en juillet dernier, les départs n'ont pas diminué, ils se sont tout simplement déplacés de Sabratha à Zouara, à une vingtaine de kilomètres seulement de la frontière tunisienne. Avec l'arrivée de l'été, les embarcations qui prennent la mer ne font qu'augmenter. Les trafiquants tunisiens et libyens souvent collaborent. Faute d'embarcations suffisantes, les passeurs côté libyen font appel aux pêcheurs tunisiens. Les embarcations de pêche de Sfax et des îles Kerkena en Tunisie sont utilisées ainsi aussi pour les départs de Zouara côté Libye. Le triangle Sud-Tunisie-Libye, c'est de là que durant toute la saison d'été, les départs risquent de se multiplier.
Maureen Mercier à Tunis. Le gouvernement malien réagit aux accusations portées par l'opposition qui prétend que les services de sécurité du Premier ministre ont ouvert le feu sur des manifestants à Bamako 2 mois avant la présidentielle. 16 blessés, selon l'Alliance démocratique pour la paix. Une certitude, cette manifestation réprimée avec ou sans armes à feu était interdite par le pouvoir officiellement en vertu de l'état d'urgence. État d'urgence politique avant tout. C'est une correspondance de Bamako de Christelle Pire.
Les deux camps se renvoient la balle sur la responsabilité des violences d'hier. L'opposition dénonce un pouvoir liberticide et oppresseur qui a frappé avec des matraques et des gourdins plusieurs responsables du rassemblement et tiré à balles réelles. Des douilles ont en effet été retrouvées par les manifestants. Les forces de l'ordre, elles, nient avoir tiré et affirment avoir simplement empêché tout attroupement qui pouvait troubler l'ordre public. De son côté, le gouvernement rappelle qu'il n'y a pas eu de blessés graves et aucun pare-balle et il s'en tient à l'interdiction due à l'état d'urgence. Qu'importe si l'année dernière, sous ce même état d'urgence, l'opposition avait pu rassembler plusieurs milliers de personnes dans les rues de Bamako contre la révision constitutionnelle. Malgré les appels au calme lancés par le secrétaire général de l'ONU, l'opposition persiste. Elle veut de nouveau manifester vendredi prochain pour exiger des élections transparentes et un égal accès à la télévision publique. Le premier tour du scrutin présidentiel est prévu le 29 juillet. Le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, est candidat à sa réélection et fait figure de favori. L'opposition avance, elle, en ordre dispersé pour le premier tour. On compte en tout une quinzaine de candidatures déclarées.
Christelle Pire, Bamako, la condamnation à 20 ans de prison de Mélina Bouguedir pour appartenance à une organisation terroriste, Daesh en l'occurrence, vient alimenter un débat chaotique en France sur le traitement qu'il conviendrait de réserver aux revenantes, ces femmes qui ont séjourné en Irak ou en Syrie, dans des localités contrôlées par des effectifs djihadistes. Nous sommes comme convenu en ligne avec la journaliste et écrivaine Edith Bouvier, qui a coécrit avec Céline Martelet un parfum de djihad, ouvrage publié chez Plomb, dont le sous-titre est le suivant. Qui sont ces Françaises qui ont rejoint une organisation terroriste? Bonsoir Edith Bouvier. M'entendez-vous? Nous sommes censés être en ligne avec Edith Bouvier qui a suivi à Bagdad le procès de Mélina Bouguedir, cette ressortissante française condamnée à 20 ans de prison. Je retente une fois, Edith Bouvier, êtes-vous en ligne ? On va rappeler Edith Bouvier ultérieurement et en venir à l'UNICEF qui énumère les provinces afghanes du sud mais aussi du centre du pays et qui dresse la liste des manques et défaillances. Manque d'institutrices, mauvais état des écoles et insécurité concourent à la déscolarisation des enfants. Ils sont 3,7 millions à ne plus aller en classe en Afghanistan, avant tout dans les zones rurales où vivent les familles les plus fragiles. Les précisions depuis Kaboul de Sonia Ghezali de RFI.
C'est la première fois depuis 16 ans que l'éducation recule en Afghanistan. Près de la moitié des enfants âgés de 7 à 17 ans ne fréquentent pas les bancs de l'école. Une déscolarisation qui touche plus les filles, qui représentent 60% des enfants non scolarisés. Dans certaines provinces, ce chiffre grimpe à 85%, surtout dans les zones où les talibans sont particulièrement influents, comme dans le sud du pays. Les enseignantes ne sont pas assez nombreuses, soulignent certains acteurs de l'éducation, expliquant que certaines familles n'envoient pas leurs filles à l'école si l'enseignant est un homme, par tradition. La dégradation de la sécurité, la pauvreté, les mariages précoces sont autant de facteurs qui poussent les familles à ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Quel avenir pour ces générations, s'inquiète l'agence onusienne. Les autorités afghanes ne contrôleraient que la moitié de leur territoire, le reste étant sous le contrôle ou disputé par les talibans ou le groupe État islamique. Quand les enfants ne sont pas en classe, ils sont exposés à un risque accru d'abus, d'exploitation ou de recrutement par des groupes armés, insiste la représentante UNICEF en Afghanistan dans ce rapport.
Nous avons retrouvé la ligne avec Edith Bouvier en direct de Bagdad. Bonsoir Edith Bouvier.
Bonsoir.
Vous avez suivi ce procès, le procès de Mélina Bouguedir, 20 ans de prison pour appartenance à une organisation terroriste. Bon, il y a un débat, vous n'y ignorez pas, mais vous diriez quoi ? Parodie de justice, un premier commentaire, peut-être vous qui avez suivi ce procès éclair, hein, 50 minutes, je crois.
50 minutes, mais c'est le maximum des procès apparemment ici, parce que le premier procès de Mélina n'a duré que 12 minutes. Donc là, par la présence des avocats français, ça a un peu duré, on a pu entendre un petit peu davantage des éléments de contexte sur Mélina, sa volonté de partir depuis longtemps avant son arrestation, mais effectivement, très peu, et surtout, très peu à la fin des discussions, très peu de discussions entre le juge et ses conseillers avant le verdict. Comme si, en fait, tout avait été écrit, en avance.
Alors, vous avez, entre 2014 et 2017, recueilli quantité de témoignages de jeunes femmes qui ont rejoint des localités, contrôlées, comme je le disais tout à l'heure, par des effectifs djihadistes. Par rapport au profil que vous avez rencontré, que diriez-vous, justement, de Mélina Bouguedir ?
Mélina Bouguedir, c'est un cas un peu particulier, parce que elle est partie avec son mari, alors même là, si elle a plaidé, si elle a expliqué avoir été contrainte de partir avec son mari, qu'il l'a menacé, sinon il prenait les enfants, c'est plus un couple, une famille qui est partie pour vivre différemment, pour vivre leur islam, selon ce qu'elle nous avait dit.
Quel islam en l'occurrence ? Quel islam avance-t-elle ?
C'était l'islam du temps du prophète. C'est ce mythe du califat cargué les défenseurs de l'État islamique.
Alors justement, de ce point de vue, est-ce que dans sa trajectoire de vie, il y a rupture ? Parce que à vous lire, on comprend qu'à chaque fois, il y a des blessures existentielles, des environnements familiaux difficiles. Est-ce que c'est le cas pour Mélina Bouguedir ?
Pour Mélina, j'avoue ne pas avoir la clé, la compréhension de vraiment ce qui a fait le déclencheur de ce départ. Mais effectivement, la plupart de ces jeunes filles, le seul lien qu'on trouve entre elles, c'est une faille. C'est une maman trop présente, c'est un papa trop absent, et c'est surtout, dans bon nombre de cas, des femmes qui ont été abusées, des femmes qui ont été violées, et qui, comme la justice française n'a pas reconnu suffisamment ce viol, comme elles n'ont pas pu condamner leurs agresseurs, elles partent, elles décident d'abord de se voiler, de mettre le sitar, ce qui signifie rideau, et c'est pas pour rien qu'elles choisissent ce vêtement pour se cacher du regard des hommes, de vivre au sein de l'État islamique, et comme ça elles savent qu'elles vivront entre sœurs, entre femmes, et elles savent que au sein de l'État islamique, malgré tout le paradoxe que ça peut représenter, il y a une loi et qu'elles seront défendues, alors qu'elles n'ont pas l'impression d'avoir été défendues, d'avoir été protégées par la loi chez elles en France.
Edith Bouvier, venons-en à nos perceptions ici en France vis-à-vis de ces revenantes. Le chef de la diplomatie française avant-hier, Jean-Yves Le Drian, a affirmé, oui, Mélina Bouguédir est une combattante. Qu'est-ce que ça dit justement de ce qu'on n'a pas encore intégré ici, chez nous?
Alors ça dit déjà que c'est très certainement pour ça que le verdict a été aussi rapide, c'est que...
Vous dites qu'il y a un procès politique, comme les avocats de la condamnée.
Les avocats disent, et c'est ce qu'on a un peu ressenti quand même. Il n'y a pas eu une grande concertation entre les juges, ça a été vraiment très rapide, il y a eu moins de 3 minutes entre la fin des discussions et le verdict. C'est pas le temps qu'on a en France au sein d'un procès pour vraiment décider d'une peine, surtout une peine aussi lourde. 20 ans d'emprisonnement dans un pays comme l'Irak. Donc forcément, il y a le poids de ces déclarations du ministre français des Affaires étrangères, qui ne les a pas faites par hasard, dans ce verdict.
Alors, vous avez dans votre ouvrage aussi, évidemment, rencontré des jeunes femmes, mais aussi des avocates, des policiers, des personnels pénitentiaires. Justement, prenons les policiers. Comment les policiers français posent-ils leur regard sur ces jeunes femmes qui sont parties là-bas rejoindre des organisations terroristes?
Le regard des avocats comme celui des policiers a énormément évolué avec le temps. Quand on a commencé à travailler sur la question, c'était avant l'épisode dit des bonbonnes, ces jeunes femmes qui en septembre 2016 avaient fomenté un attentat heureusement loupé près de Notre-Dame de Paris. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte, on a réalisé que les femmes pouvaient également être porteuses de mort et tenter de commettre des attentats. Jusque-là, à chaque fois qu'on disait à nos interlocuteurs qu'on travaillait sur la question, la réponse était toujours la même, mais pourquoi les femmes ne servent à rien? Et c'est un peu toujours la même défense qu'utilisent ces femmes lors des procès, c'est de dire, on est victime, on a été contrainte de suivre un homme, comme si une femme ne pouvait pas faire une bêtise, aussi grave soit-elle, que choisir de rejoindre une organisation terroriste, comme un homme.
Vous y voyez du sexisme, vous y voyez clairement du sexisme, Edith Bouvier.
Dans une société comme en France, où aujourd'hui on revendique l'égalité homme-femme, Dans le droit de commettre une erreur pareille, on ne serait pas capable de la commettre? Moi, je ne comprends pas. On est autant capable de faire des bêtises qu'un homme, d'avoir des idées bêtes, de se tromper sur quelque chose, autant qu'un homme.
Bien, et bien, c'est sur ce constat égalitariste que on va se quitter. Merci à vous, Edith Bouvier, d'avoir
beaucoup.
Été avec nous en direct de Bagdad. Bonne soirée à vous et à très bientôt. Je rappelle le titre du livre que vous avez coécrit avec Céline Martelet, Un parfum de djihad, ouvrage publié chez Plomb. Selon l'une des conseillères du nouveau chef du gouvernement espagnol, aucun ministre appartenant au parti de gauche Podemos ne figurera dans l'équipe du socialiste Pedro Sanchez qui ambitionne de constituer un gouvernement minoritaire. La chancelière allemande répond aux propositions d'Emmanuel Macron en matière de réforme de l'Union européenne. À la Frankfurter Allgemeine Sonntag Zeitung, Angela Merkel soutient l'idée de transformer le mécanisme européen de stabilité, ce dispositif de gestion des crises, en fonds monétaire européen et le projet d'introduire par étapes un budget d'investissement de la zone euro, un niveau à 2 chiffres bas en milliards. C'est moins que ce que le président français envisageait, mais il déclare qu'en pleine guerre commerciale avec les États-Unis, Berlin fait en sorte de renouer avec un solide axe franco-allemand. Il me reste quelques mots de météo à vous livrer avant de refermer cette édition. La météo de demain lundi, temps de nouveau instable sur une grande partie du pays avec un risque d'orage localement fort, de la grêle, de forts cumuls de pluie. Seules les régions voisines des frontières du nord resteront à l'écart de l'activité orageuse la plus forte. Les températures maximales seront comprises entre 18 et 28 degrés, 13 à 18 degrés seulement demain matin.